Chante vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Notre-Dame Bigorre. C'est par ces mots que nos ancêtres croisés entrèrent de la Bigorre à Jérusalem, résumant en ces quelques mots toute la spiritualité bigourdane, Notre-Dame, point d'exclamation, Bigorre. Effectivement, l'histoire de notre diocèse, son histoire sainte, est profondément liée aux interventions, aux visitations de la bienheureuse Vierge Marie. Nous terminerons cette conférence sur cet aspect marial de la spiritualité bigourdane et nous allons commencer au commencement, tout en faire se peut, avec la personnalité de Saint-Cernin. Saint-Cernin, connu également sous le nom de Saturnin, est considéré comme l'évangélisateur du sud de la France. Il est envoyé par le pape Saint-Fabien. Le pape Saint-Fabien et pape de 236 à 250, il est envoyé pour évangéliser la Gaule. Et plus particulièrement, Cernin, parmi les envoyés du pape, lui, va cheminer dans le sud. Alors on trouve dans un certain nombre de diocèses les passages marqués de Saint-Cernin, notamment à Nîmes, jusqu'à Pampelune en Hispanie. Alors, il ne faut pas avoir une géographie hexagonale trop stricte en ce temps-là, comme même dans les siècles qui vont venir avec les autres figures que nous allons rencontrer. Il est dans le sud de la Gaule, il va aussi bien à Pampelune qu'à Nîmes. Il va finir également par aller dans le Gers, il va se doter d'un certain nombre de compagnons, Saint Honeste, Saint Firmin, Saint Hilaire. Ce que l'on sait de Saint Cernin, c'est qu'il prêche inlassablement l'Évangile. Il finit par s'établir à Toulouse et est considéré alors comme le premier prêtre de cette cité métropolitaine, évêque. On disait prêtre en ce temps-là au sens où il a la plénitude du sacerdoce. Alors, on ne sait pas grand-chose parce que nous sommes au commencement de la vie de l'Église sur son enfance, sa formation, quelques traits de sa vie. En ce temps-là, ce qui est presque le plus important pour un saint, ce n'est pas tant sa vie, c'est surtout les derniers instants qu'il a passés ici-bas, son martyre en l'occurrence pour Saint-Cernin, mais surtout ce qui va se passer ensuite sur sa tombe et le culte qui va alors en jaillir. Cernin, arrive donc dans la ville de Toulouse, il est connu et reconnu comme étant le chef de cette communauté chrétienne. Chaque fois qu'il veut aller dans le lieu de culte chrétien, qui est aux environs de la cathédrale de Toulouse aujourd'hui, dans ce quartier-là, Cernin doit passer par le forum. Et se rendant au forum, il y a déjà une première persécution chrétienne qui a été décrétée par l'empereur. Il fallait donc sacrifier, martyriser tous ceux dans l'Empire qui refusaient de sacrifier aux idoles. Alors, Cernin, il se trouve en passant par le Capitole. Au Capitole, il y a la triade capitoline, un temple à Jupiter, à Junon et Mercure. L'empereur d'Èce a donc décrété une première persécution. Si les chrétiens refusent de rendre un culte aux dieux romains comme à l'empereur, alors ils seront condamnés à mort. Et lorsque la foule est ainsi galvanisée, d'autant qu'on pense que si l'Empire n'est plus aussi prospère qu'avant, c'est parce qu'on manque de fidélité aux dieux païens, Cernin venant à passer, on le somme publiquement de rendre un sacrifice aux dieux païens. Mais Cernin, comme tout chrétien, ne vit que de l'unique sacrifice du Christ. Le taureau était apprêté pour être sacrifié publiquement en l'honneur de l'empereur, pour l'Empire et toutes les intentions de cette prospérité. Eh bien, puisque Cernin refuse de sacrifier le taureau, alors on attache Cernin au taureau. Le taureau a déjà commencé un petit peu à l'embêter, c'est pas une corrida, mais déjà, du coup, lui, d'un seul bond, eh bien, libéré, il s'enfuit. Cernin dévale, attaché à son taureau, l'escalier du Capitole et rend son âme à Dieu. Il est récupéré en fin de course, pourrions-nous dire, par quelques saintes femmes qui vont récupérer sa dépouille, la cacher. Et ce n'est que quelque temps après, quand le temps s'est apaisé, que l'on va s'interroger sur le lieu de sépulture de Cernin. Cernin, aujourd'hui, nous connaissons sa tombe, c'est la si belle basilique de Saint-Cernin à Toulouse. Il y a l'église Notre-Dame du Thor, où le taureau aurait laissé là, sur son passage, Cernin, et ensuite, voilà que ses successeurs, dont Saint-Exupère, dont nous allons parler, vont s'efforcer de bâtir, eh bien, une basilique, enfin du moins un temple digne de ce saint évêque qui a donné sa vie. Le culte à Saint-Cernin est très important, se répand parce que sur sa tombe, d'innombrables grâces eh bien, voient le jour. Nous sommes aux environs de 250 lorsque Cernin a rendu ainsi son âme à Dieu. Cela a profondément marqué notre région apostolique de Toulouse. Il est même dans notre diocèse de Tarbes-et-Lourdes un saint qui a quand même une certaine vénération. Quand j'étais au séminaire à Toulouse, chaque année nous nous rendions aux grandes célébrations de la fête de Saint-Cernin. Nous pouvons l'invoquer ici même pour justement avoir le courage de la foi, pour bien comprendre qu'on ne vit chacun que de l'unique sacrifice du Christ que nous recevons au Saint-Sacrifice de la messe. Donc, avec cette première prédication de l'Évangile accordée par le pape Saint Fabien aux alentours donc, du IIIe siècle, nous allons avoir, nous, dans notre diocèse, l'arrivée, quelque temps après, au IVe siècle, de Saint Justin et son compagnon Saint Micelin. Alors, Saint Cernin a donc inauguré une évangélisation. Au milieu du IVe siècle, arrive Justin. Justin, on sait qu'il vient d'Éose, donc du Gers. Il arrive donc en voisin. Il est aussi prêtre, comme on parlait de prêtre de Saint-Cernin, c'est-à-dire qu'il est, du moins dans nos traditions diocésaines, à l'origine de notre succession épiscopale. C'est considéré comme le premier évêque de la Bigorre. Donc, il va être assisté de Saint-Micelin qui, à la mort de Justin, prendra la suite. Il deviendra aussi l'évêque du diocèse. Lui, Micelin, est natif de la paroisse d'Arcisac à Dour. Là encore, nous sommes au commencement de la vie de l'Église. Nous avons perdu, sans doute, ce que nous savions de la vie même de Saint Justin. On sait qu'il vient d'Éose, quelle a été sa prédication, quels ont été les hauts faits de sa vie ou sa réalisation parmi nous. Tout cela, nous ne le savons pas. Nous avons gardé la mémoire de Saint Justin et de Saint Micelin, et lorsqu'il a été demandé à l'Église de vérifier un petit peu le catalogue des saints, nous avons toujours gardé et Saint Justin et Saint Micelin, car il est une autorité dans l'Église qui en parle, c'est Saint Grégoire de Tours. Saint Grégoire de Tours, qui succède un peu à Saint Martin, eh bien, il va comme ça écrire à un certain nombre d'évêques, à un certain nombre d'églises pour connaître les différents saints qui y sont vénérés. Il va écrire un ouvrage, le Gloria Confessorum, daté de 594, où il rend hommage et à Saint Justin et à Saint Micelin, prêtre au sens fort du terme, évêque donc de notre diocèse. Je vous lis la citation de Saint Grégoire de Tours. « Dans les limites de la cité de Bigorre, à Sexiacum, on peut traduire par Cerse, c'est pas le curé du Pays Toy qui va être avoir quelque chose contre cette tradition, je vous expliquerai pourquoi. Dans les limites de la cité de Bigorre, à Cerse, repose le prêtre Saint-Justin, lequel est fort de multiples vertus, très souvent sur sa tombe. Des possédés vociférants sont purifiés, des aveugles retrouvent la lumière, des paralytiques la mobilité. Par les mérites et la sainteté, lui est proche Micelin, qui remplit dans l'Église les mêmes fonctions que lui. Il repose à Tarbes, chef-lieu de ce territoire, et fleurit par de semblables pouvoirs miraculeux. si on connaît peu de choses de la vie de Saint Justin, ce qui importait à l'époque, c'est comment Dieu se manifeste dans le mystère de leur mort. Nous, aujourd'hui, nous sommes habitués, lorsque nous lisons une vie de saint, de commencer par son enfance, sa famille, son milieu, son éducation, peut-être sa conversion, ensuite ses études ecclésiastiques, religieuses, ou ce qu'il a fait de sa vie, jusqu'en arriver au terme de sa vie pour voir comment Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Et c'est tout à fait légitime et normal, puisque la vie chrétienne, c'est l'imitation du Christ, et que le Christ se donne à nous de façon différente, avec des charismes, de regarder ainsi l'exemple des saints, c'est de se dire aussi que tous, avec ce que le bon Dieu nous a donné, nous sommes appelés à cette même sainteté. Dans les temps anciens, dans la primitive Église, on regarde davantage le bon Dieu que ses saints lorsqu'on leur rend un culte. Ce que l'on veut voir, c'est s'il plaît au bon Dieu de passer par lui pour entendre nos prières. Et on voit bien dans tout l'ouvrage de Saint Grégoire que ce qui est pour lui important, c'est de voir les lieux où Dieu manifeste sa force par les miracles qu'il accorde à l'intercession du saint. Alors vous savez, aujourd'hui, toujours dans les procès de béatification, de canonisation, certes, on va se renseigner sur la vie, sur les écrits de la personne qui est en procès de béatification, de canonisation, mais l'on attend que le bon Dieu manifeste surnaturellement qu'il est à l'œuvre dans toute la vie de ce saint qui lui plaît de passer par lui pour nous accorder des grâces et des guérisons. C'est ce qui a abondé sur la tombe de Saint Justin. On retrouve dans ce que décrit Saint Grégoire un peu tout le ministère public de notre Seigneur Jésus le Christ. On nous dit sur la tombe de Justin, mais les aveugles retrouvent la vue, la mobilité retrouve, les paralysés, retrouvent la mobilité. En cela, on voit que Justin, par son annonce de l'Évangile et par sa vie, eh bien, du moins, a mis ses pas dans ceux du Seigneur Jésus. Ensuite, après Saint Justin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Saint Justin, la ville de Tarbes étant en proie aux barbares, il cherche un lieu où se réfugier et il va trouver refuge à Sexiacum. Une fois qu'il y est, il fonde en ce lieu un prieuré, c'est-à-dire, on va voir ça aussi avec la vie de Saint-Exupère, on est évêque, on est au milieu du monde, on combat le monde, on annonce l'évangile, et à un moment donné, on se retire du monde dans la prière. C'est un petit peu le modèle, quelque part, de ces évêques des premiers temps. Eh bien, Justin, il se retrouve là, dans la prière, il va fonder un prieuré avec quelques compagnons, et ensuite, il va rendre son âme à Dieu. Quand je vous disais de ce que dit Saint Grégoire, il parle de la Bigorre, de la cité de Bigorre, Bigorra. Il va nous parler de Tarbes, concernant Saint Micelin. Je vous dis, Justin vient d'Éose. Qu'est-ce qu'était la Bigorre en ce temps-là? Ben voilà une grande question. Elle n'a pas les mêmes limites que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'était même pas forcément la question que l'on se posait particulièrement. Les cartes de géographie, tout cela, ne passait pas comme quelque chose d'essentiel. On peut estimer que cette cité de Bigorre pourrait être Saint-Lézé. Alors aujourd'hui, Saint-Lézé, c'est à côté de Vic, par là. Ça a été un des chefs-lieux de notre diocèse, de notre vie diocésaine naissante avec Saint-Justin et Saint-Micelin. Où est Sexiacum? J'ai lu quelques écrits de prêtres du XIXe siècle parce que ça les intéressait de pouvoir mettre des mots. En tous les cas, à partir du XVIe siècle, c'est à Cerce, un des villages du pays Toy, que je vais faire visiter à Monseigneur lors de sa visite pastorale qui va commencer jeudi prochain, eh bien qu'il y a le petit oratoire avec la statue de Saint-Justin, mais était-ce véritablement là? Il y a d'autres lieux dans le diocèse, le village de Saux, S-A-U-X, je prononce éventuellement fortement Saux pour bien comprendre qu'il y a le X, est-ce que c'était là ou pas là? En tous les cas, le lieu mémoire dans le diocèse où on honore et où on prie Saint-Justin, c'est ce mont au-dessus de Cerce. Vous pourrez venir visiter, c'est un très beau lieu, il y a un très beau panorama, il y a le petit oratoire, il y a un autel, et c'est là que l'on vénère le souvenir du saint dont nous n'avons aucune relique. À l'occasion de l'ouverture de l'année jubilaire, je me suis efforcé de rechercher les reliques de nos saints fondateurs. Bien, si nous avons une relique de Saint Micelin, nous n'en avons pas, ou nous n'en avons plus, concernant Saint Justin. Micelin, je vous le disais, il succède à Saint Justin. Il est donc originaire de chez nous, de la paroisse d'Arcisac à Dour. Jusqu'à la Révolution, dit-on, il y avait une représentation à l'entrée de l'église de ce saint représenté à cheval, en armure, avec une épée. Il est le défenseur. Mais de quoi vient-il donc vous défendre? Parce que nous n'avons pas, si vous voulez, du point de vue historique, on sait qu'il y a une invasion de barbares, mais quels sont les barbares? En tous les cas, Micelin a résidé à Tarbes. Son tombeau, aujourd'hui, se trouve en l'église Saint-Jean. Il n'est pas directement visible par le retable. Il faut pouvoir accéder à un petit lieu qu'il y a derrière le retable. Le tombeau, aujourd'hui, est vide parce que, vous savez, l'histoire de France a été très mouvementée, notamment avec les guerres de religion au XVIe siècle. Et donc, du coup, ce que l'on avait de plus précieux, on l'enlevait pour le garder. Nous avons gardé des reliques de Saint Micelin, mais le lieu de son tombeau donc, est toujours vénéré en l'église Saint-Jean. Défenseur de la foi, bien sûr, nous pouvons l'invoquer en ce sens, mais chaque année, dans la ville de Tarbes, il y avait, aux alentours du mois de mai, je retrouverai la date, je ne l'ai pas en mémoire, une procession en l'honneur de Saint Micelin pour demander aux saints de protéger, de soutenir la vie chrétienne dans la ville de Tarbes. Eh bien, c'est aussi en ces temps que nous pouvons invoquer Saint Micelin pour nous aider justement à avoir un attachement suffisant au Seigneur, pouvoir être suffisamment missionnaire pour pouvoir défendre le Christ dans les différents arguments, dans les différentes rencontres que nous faisons. Justin, Micelin, voilà donc les premiers évêques de notre cité de Bigorre. Nous passons ensuite avec une autre figure de sainteté, très belle figure de pasteur cette fois-là, Saint-Exupère. Saint-Exupère, il est né à Arreau, chez nous donc. Et fils d'un paysan, il naît dans ce village aux alentours de 340. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu Arreau, il y a la très belle église Notre-Dame de l'Assomption, un très beau joyau baroque, mais il y a également dans cette ville une autre chapelle, chapelle de Saint-Exupère. Comme la Révolution n'est pas entrée dans cette vallée-là, nous avons encore, je dis ça pour les abbés, une orfèvrerie fort ancienne, pour une part médiévale, et nous avons notamment le bras reliquaire de Saint-Exupère. Je n'ai pas pu le faire arriver à la cathédrale parce qu'il faut 6 mois de dossier administratif pour permettre à un reliquaire de cette catégorie-là de pouvoir arriver parmi nous. Nous avions tout de même une relique de Saint-Exupère à la cathédrale. C'est devenu le 5e évêque de Toulouse et donc un des successeurs de Saint-Cernin. Je vous dis une très belle figure de pasteur. Tout d'abord, c'est une figure majeure de l'épiscopat gaulois du 4e et 5e siècle. Durant son épiscopat, qu'est-ce que l'on retient surtout? Le fait qu'il a continué les travaux de la basilique Saint-Cernin et qu'il les a finis, ces travaux, qu'il a consacré l'édifice en 402, permettant d'accueillir de très nombreux pèlerins. C'est vous dire, parce que nous n'avons pas la vie, je vous ai dit, de Saint-Cernin, c'est vous dire que son culte était suffisamment présent dans l'ensemble du peuple de Dieu pour que quelques siècles encore après sa mort, on continue à se rendre en pèlerinage sur la tombe de Saint-Cernin. Doctrinalement, Exupère va être confronté aux questions de son temps pour lesquelles il va consulter directement le pape Innocent Ier. Et là, vous allez voir déjà qu'Exupère se bat contre le progressisme. Il ne faut pas croire que le progressisme est dévolu à nos années. Il a déjà confronté Exupère à un prêtre qui s'appelle Vigilance, qui conteste publiquement plusieurs choses. Le culte rendu aux martyrs et à leurs reliques. Le célibat sacerdotal, vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. La pratique du jeûne comme la profession monacale. Alors, c'est surtout ce dernier point qui vise plus personnellement Exupère, parce que Saint-Exupère fait entrer les vœux monastiques et la vie monastique dans l'archidiocèse de Toulouse, et qui vont peu à peu se répandre. C'était nouveau d'avoir ainsi cette vie monacale se consacrer à Dieu dans la prière en quittant le monde. Je vous disais, c'est un petit peu ce que les évêques vont vouloir ressentir, une vie pastorale abondante et en même temps, à un moment donné, on se retire du monde dans la prière. C'est exactement ce que va faire Saint-Exupère. Alors, Exupère va s'efforcer de répondre au prêtre Vigilance. La question du jeûne, La question du jeûne était attaquée sur ce point-là. Il y a suffisamment de gens qui meurent de faim pour que ceux qui puissent manger s'en privent, même pour le Christ. Et pourtant, l'exupère tiendra ferme que le jeûne est un moyen d'apostolat, qu'un jeûne est un moyen de conversion et finalement un moyen de sanctification. Le célibat sacerdotal aussi, Saint-Exupère va véritablement affirmer, il a consulté Innocent Ier avant, hein, parce qu'il est confronté publiquement à ce prêtre et que la communauté chrétienne tend à se diviser. Exupère sera extrêmement ferme, alors il ne fait pas tuer le prêtre, hein, n'exagérons pas, mais en tous les cas, il n'est plus son prêtre. Il est donc acéphale, il agit sans tête, c'est un prêtre vagus, il lui est sommé de quitter le territoire pour ne pas perturber le troupeau de notre Seigneur Jésus le Christ. Exupère est un homme extrêmement cultivé, tellement cultivé qu'il est lié d'une sincère amitié avec le grand Saint Jérôme. Saint Jérôme, le grand traducteur des Saintes Écritures, qui a été le secrétaire particulier du pape Damase, il pensait, en raison de ses grandes qualités, hériter du siège de Pierre. Mais quand il n'en fut rien, il décida de se retirer en Terre Sainte à Bethléem pour ne vivre que de Dieu seul. Eh bien, Exupère va correspondre avec Saint Jérôme, et Saint Jérôme lui-même va lui dédicacer son commentaire du livre de Zacharie, dans lequel il loue une grande qualité chez Saint Exupère, qui est celle de la charité. Il nous dit ceci: lors de l'invasion des Vandales, le Saint-Évêque a faim, tandis qu'il nourrit les autres. Son visage est marqué par les jeûnes, mais il est surtout torturé par la faim des autres. Il a tout donné aux pauvres, qui sont les entrailles du Christ. Effectivement, Saint Exupère non seulement jeûnait personnellement pour sa sanctification, pour le peuple qui lui était confié, mais lorsqu'il y a eu cette invasion, lorsqu'il y a eu la famine, Saint Exupère n'a rien pris et s'est efforcé de tout donner, à l'image du Seigneur Jésus qui a tout donné jusqu'à offrir sa vie en sacrifice par amour pour nous sur le bois de la croix. À la fin de son épiscopat, Exupère, je vous le disais, se retire en ermitage, un ermitage qui est aujourd'hui situé près de Blagnac, pour ne vivre que de Dieu seul. C'est là qu'il fut rappelé à Dieu le 28 septembre 415. On peut donc demander, eh bien justement, à l'intercession de Saint Exupère, natif donc de notre diocèse, eh bien de nous aider doctrinalement à suivre le Christ dans la fidélité de sa tradition, dans la fidélité de ce chemin qu'il a ouvert pour nous. Nous pouvons aussi lui demander, eh bien, d'être apôtre de charité pour ne vivre que de Dieu seul et de donner justement à tous ceux que nous connaissons aux alentours cette nourriture essentielle pour la vie de la grâce, notre Seigneur Jésus le Christ. Après Saint Cernin, Saint Justin et Saint Micelin, Saint Exupère, nous en venons à Saint Savin. Saint Savin, vous connaissez peut-être le nom de l'abbatiale qui porte aujourd'hui son nom. Saint Savin, il nous vient de Barcelone. C'est pas le petit gourdin pur jus, mais nous l'avons accueilli comme un grand ami de Dieu et l'un des nôtres. Originaire de Barcelone, il reçut là une très solide éducation. On pense même que Savin était le fils du comte de Barcelone. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, il va trouver un emploi chez son oncle qui est comte de Poitiers. Donc du coup, il va aller là enseigner, donner une instruction au fils de ce comte de Poitiers. On est là, on pensait jadis beaucoup plus tard, mais aujourd'hui, les études historiques, on est là entre le 5e et le 6e siècle. C'est donc un excellent pédagogue. Savin sait véritablement transmettre le savoir, mais il joint toujours à ce savoir, eh bien, la véritable dévotion à notre Seigneur Jésus le Christ et à la prière. Il ne se contente pas d'instruire en lettres, en mathématiques, en lettres latines, etc. Il s'efforce aussi de donner un solide enseignement spirituel. Il y a là déjà, chez Savin, le désir de chercher le Christ dans les Saintes Écritures, de chercher le Christ dans une vie qu'il voudrait un peu plus retirer du monde. Le comte de Poitiers est très heureux des progrès qu'il fait faire à son fils. Il lui donne et il lui donne un argent considérable et des faveurs immenses. Et Saint Savin, que fait-il ? Il œuvre de charité. Il ne fait que donner et rendre ce qu'on lui a donné, précisant que si on lui a donné, c'est parce qu'il l'a reçu du bon Dieu. Alors il donne aux plus pauvres. La figure qui a beaucoup marqué ces temps-là, c'est celle de Saint Martin. Vous savez que l'abbaye bénédictine de Saint-Savin a eu une vie donc sous la règle de Saint-Benoît, mais à l'époque où je vous parle de Saint-Savin, la règle n'est pas encore appliquée. C'est en fait la règle de Saint-Martin que Savin va suivre dans son abbaye, et c'est ce grand modèle qui en fait va l'inspirer. Donc désireux de se donner au Christ dans la vie religieuse, il va rentrer au monastère de Ligugé, fondé par Saint-Martin. Il va vivre là 3 ans de vie monastique, mais n'imaginons pas le hora et labora bénédictin et la règle telle que nous la connaissons. On peut le considérer bien sûr comme un fils de Saint-Benoît, mais ce n'est pas encore ce que nous entendons aujourd'hui par un disciple de Saint-Benoît. Il est plus disciple de Saint-Martin. Saint-Martin a fondé cette vie religieuse et monastique, et c'est cela que Savin va vivre. Donc il passe 3 ans de vie monastique. Il en est très heureux de cette vie fraternelle, de contemplation, de prière, mais il sent intérieurement le désir de se retirer du monde. On l'a déjà vu chez Saint-Exupère, tout occupé à sa vie d'évêque, le désir de se retirer pour n'être qu'à Dieu seul, c'est bien ce qui habite Saint-Savin. Alors, il en parle à son supérieur, et l'abbé du monastère lui indique un lieu, Poyaspé, c'est ce Saint-Savin que nous connaissons aujourd'hui, où se retirer dans la prière et la pénitence, car il y a là une petite communauté de disciples de Saint-Martin, autour de cette petite abbaye. Alors n'imaginons pas non plus la grande abbaye que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Et de là, on va lui conseiller, le père abbé, un lieu où il va pouvoir se retirer. Alors, son ermitage est très difficilement accessible. Eh bien, malgré tout, le peuple des alentours, eh bien, sachant la vie que mène Saint-Savin, étant attiré par le bon Dieu, vient régulièrement le visiter. Ils viennent visiter celui qu'ils appellent le saint, pour lui demander conseil, discernement, pour venir également lui confier telle et telle personne dont ils savent qu'elle est malade, ou telle intention de prière. Ce saint est considéré, Savin, comme un thaumaturge. Il touche et aussitôt, par la grâce de Dieu, il est guéri. Alors les guérisons abondent. Si vous vous rendez dans la basilique Saint-Savin, non seulement le tombeau, qui est l'autel, où nous célébrons la messe, est le tombeau du saint, et vous verrez de part et d'autre de ce cœur, il y a 2 tableaux très anciens qui devraient être restaurés bientôt, où on voit justement non seulement la vie de Saint-Savin, mais également de très nombreux miracles qui ont été vécus de son vivant, qui sont alors là relatés. Après 13 ans de vie érémitique, vers l'âge de 40 ans, Savin s'éteint. Les moines descendent alors son corps qui repose en l'abbatiale du monastère, et nous pouvons donc nous aussi nous rendre là et le vénérer. Nous pouvons demander particulièrement à Saint-Savin bien de nous aider, lui qui était un si bon pédagogue, à pénétrer davantage les mystères de la vie chrétienne, les mystères des Saintes Écritures. Saint Jérôme disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ », qui nous aide donc à approfondir notre foi. Nous pouvons lui demander, là encore, bien comme lui, tout ce que nous recevons de grâce de Dieu, de savoir le rendre aux autres. C'est vrai pour la pédagogie, mais c'est vrai aussi pour tout ce que donnait Savin qu'il avait reçu. Demander peut-être aussi à Savin, si ce n'est de quitter complètement le monde, que les époux restent avec leurs épouses, je ne voudrais pas causer des problèmes dans ce sens, mais d'avoir quand même ce désir intérieur de se retirer. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'il nous faut nous retirer, non pas au coin des rues où ça serait bien visible, ne pas faire sonner la trompette avant la prière pour montrer à tous que l'on prie, mais se retirer dans la chambre, le lieu le plus éloigné. Votre Père est là, dans le secret. Bien, demandons aussi à Saint-Savin cette grâce de pouvoir entrer dans cette vie avec le Christ, dans la prière. Autre figure de sainteté, il est né dans les Landes, c'est vrai. Mais vous allez voir qu'il a beaucoup marqué notre diocèse, l'Église de France en général et le monde, puisqu'il est un grand saint vénéré. Mais il a été ordonné sous-diacre et diacre en notre cathédrale, c'est Saint-Vincent de Paul. Alors là, nous faisons un bond dans le temps. Vincent naît au sein d'une famille d'agriculteurs landais en avril 1581. Son village natal est situé à 5 km de Dax. Il porte aujourd'hui son nom, c'est le berceau de Saint-Vincent de Paul. Nous avons quelques reliques, particulièrement dans l'église qui porte son nom, à Tarbes, Saint-Vincent de Paul. Il est doué pour les études, cet enfant. Vincent va recevoir, pour les études, il sent, depuis qu'il est enfant, un appel à suivre le Christ. Il va répondre à cet appel. Il va répondre à cet appel et va recevoir la tonsure, puis les ordres mineurs, des mains de Monseigneur Salvat d'Iars, qui est évêque de Tarbes. Sans doute, alors la tonsure, il la reçoit dans la ville de Bidache, ensuite il vient rencontrer l'évêque, qui est apparemment un ami de son frère. On est le 20 décembre 1596, il va faire des études ecclésiastiques à Toulouse, et va être ordonné en 1598 sous-diacre, 2 mois plus tard diacre, dans la cathédrale de Tarbes. Vincent de Paul, ce qui est intéressant de remarquer au commencement de sa vie, c'est que si, enfant, il a eu ce désir de se donner au Christ, ses premières années de ministère sont un peu mondaines. Au sens où il a été nommé curé de plusieurs paroisses, il en retire des bénéfices, hein, on est au XVIe siècle. C'est un autre mode de fonctionnement de l'Église, y compris dans la finance. Vous pouviez acheter des charges et ne jamais les occuper. Vous pouviez être père abbé d'un monastère et n'avoir jamais mis les pieds au monastère. Vous en avez le titre, vous en avez les revenus. Saint Vincent, il va commencer par cultiver un petit peu ça, jusqu'à ce que, bon an, mal an, dans la vie chrétienne, une conversion radicale s'opère en lui. Il va être présent dans tous les milieux et va réussir alors à fonder une quantité d'ordres impressionnante. Il est ordonné prêtre, Monsieur Vincent, comme on l'appelle, occupe au gré des rencontres des ministères humbles et d'autres de plus en plus prestigieux. Il est curé de paroisse, il va être aumônier de la reine Margot, précepteur de la famille de Gondy, et Monsieur Gondy, c'est l'aumônier général des galères. Donc, Vincent, il n'oublie pas la préférence de Dieu pour les pauvres, et c'est ça qui véritablement marque sa vie spirituelle. Alors, il va s'efforcer de fonder des œuvres. Non seulement en étant aumônier de la reine, de la famille de Gondy, il va se mettre à rencontrer du monde et du beau monde, mais il n'en oublie pas les pauvres. Et du coup, il va se servir de leurs relations, de toutes ces dames de charité, pour fonder ordre après ordre. En 1617, les Dames de la Charité pour venir en aide aux plus pauvres. En 625, la Congrégation des Prêtres de la Mission pour l'annonce de la foi. C'est d'ailleurs dans la chapelle de ce qu'on appelle les Lazaristes que le corps de Saint-Vincent peut être vénéré à Paris. En 1633, c'est la fondation avec Louise de Marillac des Filles de la Charité pour les soins des défavorisés. En 1638, débute l'œuvre des Enfants Trouvés. 1651, ce sont les collectes en vue de secourir les victimes de la guerre qui l'occupent. 1652, c'est la naissance de la fondation de l'Union chrétienne destinée à l'éducation des enfants. En 1653, celle de l'Hospice du Saint-Nom de Jésus à Paris. Vous l'aurez compris, c'est un apôtre infatigable de la charité. Il va s'éteindre le 27 septembre 1660 sur ces quelques mots « Confiance, Jésus ». Il repose, comme je vous l'ai dit, dans la chapelle des Lazaristes de Paris, dans la cathédrale de Tarbes. À côté du petit orgue de chœur, il y a cette plaque en marbre qui rappelle les deux dates de l'ordination sous-diaconale et diaconale de Saint-Vincent de Paul. Vous comprenez qu'on peut demander à Saint-Vincent de Paul de nous aider, nous aussi, à être intelligents, malins pour toutes les œuvres de charité. Le Seigneur Jésus nous le dit dans l'Évangile qu'il faut savoir être rusé, un peu comme le renard. Voyez, Vincent de Paul, avec toutes ses relations, il a réussi à fonder et des ordres pour pouvoir répondre aux besoins de son temps. Avec l'époque de Saint-Vincent de Paul, la reine Margot, ça va être les guerres de religion qui vont ensuite diviser le royaume de France. Enfin, comment ne pas terminer ? Par Sainte Bernadette, bien sûr, qui est une figure majeure de notre spiritualité bigourdane, et à travers elle, là on a vu quelques grandes figures de sainteté. Je rappelle surtout que vous ayez en mémoire Saint Justin et Saint Micelin qui sont nos premiers évêques. Nous avons aussi, en parallèle de cette vie chrétienne, toute une histoire entre Notre-Dame et la Bigorre. Il y a plusieurs sanctuaires mariaux dans le diocèse. Le plus ancien de tous, avant de parler avec Bernadette de Lourdes, c'est celui d'Eas. Avec Eas, nous prenons forcément de la hauteur, parce que nous sommes au pied du cirque de Troumouz, cette vallée qui finit à Eas, Gavarni et Staoubé, c'est ce que l'on appelle la vallée des Gaves. Eh bien, la Vierge va prendre possession de ce lieu, elle va se manifester à des bergers. Alors, l'histoire concrète, nous ne l'avons guère. Je vous parlais avec Saint-Vincent de Paul des guerres de religion. Il y a quelque chose qui s'est perdu. En tous les cas, c'est le plus ancien sanctuaire marial des Pyrénées, richement doté à travers les âges. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose. Ce que l'on se rappelle, c'est que la Vierge a manifesté sa présence par l'envoi répété de colombes au-dessus du lieu où est bâtie aujourd'hui la chapelle. La chapelle a été détruite à de très nombreuses reprises dans l'histoire, non pas en raison des guerres de religion et n'ont pas eu lieu si haut, mais en raison des avalanches. Eas est un lieu, véritablement, de couloir d'avalanches, et à plusieurs reprises dans l'histoire, la chapelle est détruite, mais elle est toujours rebâtie. Juste à côté d'Eas se trouve une belle cascade de l'Aguila, et c'est une des sources du Gave. Je précise cela. Parce que cette vallée des Gaves que nous appelons, eh bien, la Vierge prend comme possession de ce Gave. Ensuite, il va contourner un autre sanctuaire qui est jumeau avec Eas, parce qu'une colombe d'Eas est venue se poser, c'est Poueilaun. Vous pourrez, à l'occasion de cette année jubilaire, suivre l'évêque dans les différents lieux de pèlerinage qu'il va accomplir. Poueilaun, l'église est somptueuse. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est véritablement la maison d'or. C'est un sanctuaire aussi où il y avait la source, où il y a eu les pères de garaison longtemps. Donc il y a ces deux lieux. Et ce qui les unit, c'est le Gave. Le Gave, il commence à Eas, il va descendre et contourner Poueilaun. Et avant de quitter la Bigorre pour se rendre à Bétaram, autre lieu de manifestation de la Vierge, mais c'est le Béarn, ce n'est plus chez nous, il va passer bien sûr devant la grotte de Lourdes. Alors avant d'en venir à Lourdes, il y a Eas bien sûr, il y a surtout le sanctuaire de Garaison. Garaison, si vous me permettez, c'est la seule chose de bonne qui nous soit arrivée après la Révolution, c'est que ce sanctuaire qui appartenait au Gers est arrivé en Bigorre. C'est Mgr Laurence qui était très heureux de cela, grand dévot à Notre-Dame de Garaison. Garaison a été gratifié de 3 apparitions de la Bienheureuse Vierge Marie. On est au commencement du XVIe siècle, entre 1500 et 1515. Il va y avoir 70 ans entre les apparitions et l'arrivée des premiers chapelains sous la conduite de Mgr Trapp, qui est alors archevêque d'Auch, qui eux vont aller dans les campagnes pour recueillir les témoignages les plus probants de cette jeune fille anglaise de Sagazan qui a vu à 3 reprises la Bienheureuse Vierge Marie. Pour ceux qui ne connaissent pas Garaison, c'est une grave lacune. Non seulement le sanctuaire est splendide, mais la Vierge a promis en ces lieux de répandre ses dons. Si la Vierge dit « J'ai choisi ce lieu », c'est ce qu'elle dit à la jeune Anglaise. Anglaise, le jour où la Vierge apparaît, elle est en train de pleurer. Et l'auteur nous dit qu'elle rajoute à l'eau de la source ses propres larmes. Elle est en train de tremper un morceau de pain qui est tellement sec et tellement dur parce qu'on est en temps de famine que la seule façon pour elle de le manger, c'est de le faire tremper longuement dans l'eau. C'est là que la Bienheureuse Vierge Marie lui apparaît. Elle se présente aussitôt, il n'y a pas le suspense de Lourdes où la dame ne veut pas révéler, enfin, ne veut pas spontanément révéler son nom, elle répond seulement par un sourire. Là, elle se présente immédiatement, « Je suis la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus le Christ. » Et que veut-elle? Eh bien, elle veut justement qu'en ce lieu, eh bien, elle soit vénérée. « Ici, je répandrai mes dons. » Si la Vierge dit qu'elle répandra ses dons, si elle dit qu'elle a choisi ce lieu qui s'appelait déjà Garaison, Guérison, on disait en ce temps-là que c'était un lieu fort mal nommé. Nous sommes entre Lannemezan, qui est une bastide donc créée par décision royale pour justement un petit peu empêcher tous ces bandouliers de Lannemezan de vivre un peu n'importe comment, mais de se sédentariser dans des villes. On est entre Lannemezan et Castelnau-Manioac, oui, rivière basse, c'est de notre côté, pardon. Manioac. Et donc, il y a cette route, ce sont des landes. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ce côté marécageux, parce que les premiers pères de garaison, au XVIIe siècle, vont trouver justement comment assainir tout ce coin-là. Ce sont les landes, et particulièrement une lande qui porte pas un nom au hasard, l'Anna des Bocs, la lande du Bouc. l'Anamézan, c'est la lande du milieu, et pour aller à Castelnau, eh bien, il fallait passer par la lande du Bouc. Il y a des récits fort anciens qui sont à la fois des actes notariés, des comtes de Bigorre, parce qu'un tel a marié avec un tel et a donné tel territoire, où on dit bien que cette lande du Bouc était le lieu des rassemblements des sorciers de la Gascogne et qu'ils y célébraient tous les sabbats. Lorsque la Vierge nous dit « J'ai choisi ce lieu pour répandre mes dons », c'est un lieu d'abord où était plus vénéré le démon que son propre fils. Alors la jeune Anglaise, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va voir les consuls, c'est ce qu'on lui demande. Elle en parle à son père. Et voyez-vous, son père la croit immédiatement et va la défendre. Pourquoi? Parce qu'il dira « Jamais je ne l'ai entendu mentir ou exagérer la vérité ». Donc il va voir les consuls. On hésite, et puis on décide d'arriver à Garaison en grande procession, les consuls, le clergé, la population. On plante la croix pour bien montrer que c'est la Vierge Marie, la mère du Seigneur Jésus, qui prend possession de ce lieu. Et c'est à la troisième apparition que la bienheureuse Vierge Marie va inviter Anglaise à se rendre dans sa maison et à ouvrir le coffre à pain. On est en temps de famine. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de blé, donc, en amont. Et lorsque Anglaise ouvre ce coffre à pain et voit les innombrables miches de bon pain blanc qui s'y trouvent, elle qui trempait un pauvre pain noir dans son eau, eh bien du coup, elle va partager, c'est le miracle du pain de Garaison à la troisième apparition, où la Vierge dira ceci, « Il faut toujours rendre grâce à Dieu ». Donc voyez déjà une apparition là, on est au XVIe siècle, et comme les premiers pères, qui sont pas de, enfin, on pourrait dire oui, de Garaison, pas de Garaison au sens de ceux d'aujourd'hui, mais ces premiers pères-là vont ensuite mener une vie un peu particulière. Ils vont avoir l'autorisation par le pape d'une vie communautaire fondée sur 12 docteurs. C'est-à-dire, chacun des pères de Garaison, des chapelains de Garaison, sera docteur en telle ou telle discipline. À la tête, il y en a un qui est primus inter pares, qui est le premier parmi les autres. Il y a tout un tas de conseils qui vont se faire et cette vie va véritablement rayonner. Pour faire le pèlerinage de Garaison, on ne le fait pas comme on pourrait le faire aujourd'hui. J'ai une intention de prière, un tel est très malade ou telle ou telle intention qui nous habite, je vais partir à pied à Saint-Jacques, je vais aller à pied à Rome, je vais faire le pèlerinage. Non, la tradition n'était pas ainsi à Garaison. Je fais un vœu à Notre-Dame de Garaison. Et lorsque celui-ci est exaucé, j'accomplis le pèlerinage à Garaison parce qu'il faut toujours rendre grâce à Dieu. Lorsqu'on visite la chapelle de Garaison, les premiers chapelains, on est à l'époque des guerres de religion. On va d'ailleurs venir. Montmorency va venir, va prendre la statue, va la faire brûler. Non seulement c'est un lieu d'apparition, mais c'est aussi un lieu miraculeux, car la statue qui était au milieu du feu n'a pas brûlé. Elle est toujours vénérée et vénérable dans la chapelle de Garaison. Il y a tout un tas de petits ex-votos numérotés. L'ancêtre du bureau médical de Lourdes a d'abord été fondé par les premiers chapelains de Garaison. Puisqu'il s'agissait devant les contestations protestantes de montrer le sérieux de la foi, mais aussi le sérieux du miracle quand il se présentait. Encore une autre histoire qui unit, si vous voulez, l'histoire de Garaison à celui de Lourdes, parce que tous les premiers chapelains vont être issus des pères de Garaison, c'est le projet qui est arrêté par la Révolution française, le projet de fermer le cloître de Garaison et de faire en sorte que dans ce cloître, il y ait une chapelle pour chacun des mystères du rosaire. Vous avez là, à Garaison, l'ancêtre de la basilique du rosaire que les premiers pères chapelains de Garaison vont réaliser à Lourdes. Donc nous avons Eas, nous avons bien sûr Notre-Dame de Garaison et alors nous pouvons arriver bien sûr à Sainte Bernadette. Bernadette, vous connaissez la vie de Bernadette, je ne vais pas vous la relater dans le détail, je voudrais juste souligner un aspect. Nous sommes en jubilé, c'est l'année sainte 2025. 1858 était également une année jubilaire. Une année jubilaire pour vivre davantage de la miséricorde du bon Dieu. Les grâces sont immenses, vous le savez, en cette année. 1858 était une année où la fête de Pâques serait commune à la fois à l'Église orthodoxe et à l'Église catholique. Eh bien, la Vierge Marie va donc offrir à Bernadette cette vie d'extase où Bernadette va voir la dame. À travers la dame, eh bien, elle va façonner un cœur qui a véritablement le grand désir de faire plaisir à la dame et du coup de réparer. Bernadette le dira toujours, elle le dira à l'abbé Penn, qui est le plus jeune des vicaires de la paroisse de Lourdes. On parle beaucoup de l'abbé Paumian, j'ai rien contre l'abbé Paumian. L'abbé Paumian, c'est un très bon premier vicaire, c'est un très bon premier de la classe, mais il ne dit rien à Bernadette et ne lui pose aucune question. L'abbé Penn, lui, est le jeune vicaire, beaucoup plus enthousiaste. Il lui est interdit d'aller à la grotte, certes, mais il envoie sa sœur. Et Jacquette, à la grotte, c'est les yeux et les oreilles de l'abbé Penn, de l'abbé Serre, pardon. Et du coup, il peut poser ensuite des questions en convoquant Bernadette. Bernadette, elle n'aime guère aller le voir, non pas parce qu'elle n'apprécie pas ce jeune abbé, mais c'est parce que pour aller le voir, il faut monter au premier étage. Au rez-de-chaussée, vous avez le commissariat de police et le commissaire Jacomet. Et au premier étage, vous avez d'un côté les Estrades, Emmanuelite et son frère, le prestataire d'impôts, qui deviendront de bons amis de Bernadette. Et de l'autre côté, nous avons ce jeune abbé qui vit, servi par sa sœur. C'était le bon temps où les sœurs servaient les prêtres. Moi, j'ai pas de sœur. Et donc, du coup, il va poser un certain nombre de questions à Bernadette, notamment la question le jour où Bernadette a été vue à quatre pas dans la grotte. Elle marche à genoux, mais quand les gens la voient, elle est à quatre pas dans la grotte. Boire de l'eau, c'est bien beau, mais ce n'est que dans la soirée du 25 février que Éléonore Pérard, avec son bâton, va finir par triturer là où elle a vu Bernadette creuser et qu'on comprend qu'il y a une source. Bernadette, on n'est pas dans un film américain, elle n'a pas vu un geyser d'eau claire en se disant « c'est la source ». La dame lui dit « allez à la source boire et vous lavez » et Bernadette dira bien qu'elle a fait œuvre de désobéissance. Parce qu'elle a vu dans la niche rosseuse la dame lui dire « Allez à la source, boire et vous laver ». Et la dame lui montrait l'endroit où nous connaissons la source. Mais Bernadette, elle est comme moi, elle est bigourdane, capricorne, et elle sait mieux que la dame où il y a de l'eau. L'eau est derrière elle, c'est le canal de sa vie. Et la grotte, nous ne le comprenons pas aujourd'hui parce que le gave a été déplacé de 15 mètres, c'est la grotte, c'est le lieu où le canal de sa vie va rejoindre à nouveau le gave. Donc il y a beaucoup d'eau, la grotte est toute petite, beaucoup plus petite que celle de l'espace que nous connaissons aujourd'hui, qui est déjà pas immense, mais qui a été grandement agrandi. Donc Bernadette se dit, mais elle n'est pas là, l'eau. L'eau, elle est derrière. Donc à plusieurs reprises, Bernadette, bien qu'elle continue à regarder la dame dans la niche rocheuse, qui celle-ci continue à lui sourire en lui montrant le doigt où elle doit aller, voilà, donc elle va faire déjà offre de désobéissance. Et c'est pour ça que Bernadette dira « Pourquoi elle n'est pas apparue le lendemain ? Parce que j'ai désobéi. » À plusieurs reprises, elle me montrait clairement où je devais aller, mais ce n'était pas possible, je ne le voulais pas. Et donc Bernadette finit par se rendre à l'endroit que la dame lui indique. Il ne faut pas non plus imaginer la grotte comme nous la connaissons aujourd'hui, étant donné qu'il y a le canal de sa vie, le gave. Le gave déborde et entre régulièrement dans la grotte. C'est pourquoi c'était la porcherie municipale, parce que les porcs, ils aiment et la fraîcheur du gave, ils aiment gratter leur couane contre le rocher de la grotte. Avant, les pèlerins, c'était les porcs. D'ailleurs, on disait toujours, qu'est-ce qu'il y a à voir à Massabielle ? Du sang et de l'eau. Le sang des porcs sur le rocher et l'eau innombrable. Ou alors on disait aux petits-enfants de Lourdes, ceux qui mangeaient pas très bien, il a dû faire son éducation à Massabielle. Pas à l'école de Notre-Dame de Lourdes, vous le comprenez, mais à l'école des porcs qui faisaient n'importe quoi. Donc, quand Bernadette va devoir aller dans le lieu de la dame, elle ne peut pas y être debout. Pourtant, elle ne mesure qu'un mètre 40. Elle va devoir être à moitié allongée pour creuser cette eau boueuse. Alors bien sûr, il y a un peu d'eau qui revient. Bernadette dira, j'en ai pris dans mon petit clos. Alors le petit clos dans le patois de Lourdes, c'est vraiment la paume de la main. Vous voyez que vous ne mettez pas beaucoup d'eau. Bernadette l'a pris, elle dit, non, j'ai pas pu. Une fois, deux fois, trois fois. À la quatrième fois, dit Bernadette, je pus boire une eau qui excitait ma répugnance. Et le lendemain, toute triste, ayant ressenti en son âme l'appel de la grotte, le 26 février, la dame ne se présente pas. Et Bernadette, d'instinct, se dit, après tout, c'est pas immérité parce que j'ai fait preuve de beaucoup de mauvaise volonté hier. D'ailleurs, quand on demandera à Bernadette pourquoi avoir posé la question quatre fois le 25 mars avant que la dame révèle son nom. Oui, le 25 mars 1858, c'est une apparition où Bernadette se rend. Elle n'était pas prévue parce que ça faisait déjà, on pensait comme ça, la dame lui demande de venir pendant 15 jours. C'est la 16e apparition, le 25 mars. Et comme on avait commencé à compter, non pas à la 3e, mais à la 1ère apparition, on pensait que la dame ne viendrait plus. Bernadette, elle a dans le cœur un sentiment inachevé. La dame a demandé une chapelle. Monsieur le curé a demandé le nom de la dame. Et Bernadette a fait la navette pendant quelques jours, entre le sourire comme réponse de la dame et monsieur le curé qui ne veut pas entendre parler de chapelle tant qu'il ne connaît pas le nom de la dame, ben Bernadette a dit ben « maintenant c'est fini, on n'aura ni le nom de la dame, ni la chapelle ». Et dans cette nuit du 24 mars, elle ressent intérieurement l'appel de la grotte. Il est soit 11h, soit minuit, la seule indication de Bernadette, c'est qu'on a entendu un grand nombre de coups sonner à l'église. Mais Bernadette, elle se rendort. Hein. Je ne sais pas si vous auriez pu dormir, mais Bernadette, elle, se rendort. Et très tôt le matin, 4h30, 5h, elle réveille la maisonnée. Si vous voulez venir à la grotte, c'est maintenant avec moi. Et cette fois-là, pour la seule fois de toutes les apparitions, quand Bernadette arrive à la grotte, la dame est déjà là. Elle est déjà là dans la niche rocheuse. Bernadette, à 4 reprises, va réciter une phrase qu'on lui a enseigné au cas où elle reviendrait. « Mademoiselle, auriez-vous la bonté de bien vouloir me dire votre nom, s'il vous plaît ?» Et Bernadette, qui est quand même volontaire, va se tromper dans le patois. Au lieu de dire « buntat », elle va dire « voluntat ».« Mademoiselle, auriez-vous la volonté de bien vouloir me dire qui vous êtes, s'il vous plaît ?» Sourire de la dame. Bernadette repose sa question, 2e fois, sourire de la dame, 3e fois, sourire de la dame, et à la 4e fois, la dame va répondre « Que soyera Immaculada Conception ». Quand on demande à Bernadette religieuse « Pourquoi la dame vous a posé, pourquoi elle n'a pas répondu d'après vous tout de suite, pourquoi 4 fois ?» Parce qu'on se dit après tout 3 fois, ça faisait un peu plus biblique, « Pierre m'aimes-tu 3 fois ?» Là on se dit quand même, on n'a pas une bonne correspondance biblique dans ce récit, et Bernadette de répondre tout de go, non sans humour. Parce qu'elle avait été désobéissante le 25 février. 4 fois, j'ai recraché l'eau. Alors la dame, eh bien, elle, 4 fois, elle m'a fait un sourire et c'est qu'à la 4e fois qu'elle a répondu son nom. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment l'union entre le 25 mars et le nom de la dame et la découverte de la source. La dame nous dit « Allez à la source, boire et vous lavez ». La source, c'est le Christ. C'est cette eau qui a jailli du cœur du Christ, pardon. Elle en est véritablement l'image. Aller à la source pour boire, seul le Christ peut étancher notre soif. Et nous laver, parce que comme le voit Saint Jean dans sa vision de l'Apocalypse, d'où ils viennent, ceux de la grande épreuve ? Ils viennent du monde, d'accord ? Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Allez à la source, boire et vous laver. Que dit la dame ? Que soyera Immaculada Conception. Moi, je suis l'Immaculée. Conception. Et Bernadette, sur le chemin du retour, qui a une très mauvaise mémoire, à 14 ans, en février 1858, elle est à l'école depuis 1 mois. Elle en est vraiment au béaba. Mais vraiment, au B et à bas. Elle apprend tout juste à lire et à écrire. Une mémoire peu exercée, elle dira toujours « Notre Père, je vous salue, Marie, je sais, je crois en Dieu, c'est beaucoup plus long ». Donc elle a une mauvaise mémoire. Et donc, surtout le chemin du retour, maintenant qu'elle a le nom de la dame, qu'elle ne comprend pas du tout, elle ne s'est pas dit « Tiens, c'est la Sainte Vierge ». Dans son cœur, elle le sait, parce que ce sont des extases. Mais intellectuellement, elle ne se pose pas ce genre de questions. Eh bien, sur le chemin du retour, elle ne fait que répéter « Que soyera Immaculada Conception ». Et ça arrive quand elle arrive au presbytère. Alors, en plus, elle est tellement concentrée et pourtant parfaitement bien élevée que ce 25 mars, elle pense même ni à frapper ni à sonner la cloche. Elle entre au presbytère. Je rentre au presbytère, je vois monsieur le curé et elle lui dit en patois « Que soyera Immaculada Conception ». Alors l'abbé Peyramale est d'abord un petit peu interloqué. Pour ceux qui le connaissent, ils savent que si le sourcil se met à se lever, c'est plutôt mauvais signe, parce qu'on dit toujours que l'abbé Peyramale avait un très grand cœur, une âme très généreuse, mais il y a 2 choses qui le mettaient en colère. Tout d'abord la porte qui ne fait que claquer pendant qu'il prêche, et le péché. Et du coup, il était souvent enroué, parce qu'il hurlait souvent et contre la porte qui ne fait que claquer, et contre le péché, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui se confessent. Ça n'a pas changé, sauf que des fois, on est passé en roue. Peut-être parce que vous entendez mieux. Eh bien, voilà que monsieur le curé, quand il entend cette déclaration, il est d'abord très étonné de voir tout d'un coup Bernadette revenir. Eh bien, il lui dit, comme l'abbé Paubien chez qui Bernadette a été, « Je te verrai plus tard ». Et lui se met à pleurer parce qu'il comprend qu'est-ce que peut vouloir dire Immaculée Conception. Tout d'abord parce que l'expression a beaucoup heurté, parce que c'est très maladroit. C'est des jugés extrêmement maladroits. La Sainte Vierge ne peut pas dire qu'elle est immaculée, parce que immaculée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être... Ça ne va pas. Nous, depuis les apparitions, nous nous sommes habitués, tout à l'école de Saint-Maximilien Kolb, le chevalier de l'Immaculée, c'est devenu une expression courante. Mais même Monseigneur Laurence, quand il retranscrit les apparitions, il parle de, à la limite, Marie Immaculée. Mais Immaculée tout court, on se dit, mais comment la Vierge peut dire qu'elle est Immaculée tout court? Mais là où je veux insister, c'est Bernadette qui n'a fait que buter sur ce mot Conceptio, qu'elle a du mal à répéter. La Vierge, elle insiste à travers ce bégaiement de Bernadette, comme le Seigneur a pu insister sur les bégaiements de Moïse dans sa révélation. C'est toujours une drôle d'idée du Seigneur que de choisir ce qu'il y a de plus pauvre et de plus faible dans le monde pour confondre la sagesse des puissants. Eh bien, c'est une indication. La Vierge, elle insiste avant tout sur le mot conception. Je suis la conception. Lorsqu'on lit le récit de l'Annonciation, eh bien, de quoi s'agit-il ? La mission de Notre-Dame, ce n'est pas seulement d'enfanter le Christ. Dieu ne se sert pas de la Sainte Vierge comme d'une mère porteuse. Non, il s'agit de concevoir et d'enfanter notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair. Dire « je suis l'Immaculée », si vous voulez, c'est 3 ans et 3 mois après la proclamation du dogme. On dit des fois 4 ans, c'est 3 ans et 3 mois entre la proclamation du dogme de la conception immaculée de la Vierge Marie, c'est dans le bon sens de l'Église, pour la conception immaculée de la Vierge Marie. Et là, la Vierge, elle inverse les mots. Je suis l'Immaculée Conception. Alors, on est bigourdant, on n'est pas anglais pour mettre des adjectifs avant. Et du coup, qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, elle veut dire, certes, elle est conçue sans péché. Mais elle est avant tout la conception de l'Église. À la fois parce qu'elle est le parfait reflet de ce que Dieu attendrait de nous. Elle est la nouvelle Ève, parfaitement réceptive à la grâce de Dieu. Mais surtout, si elle a eu la mission de concevoir et d'enfanter le Christ dans l'ordre de la chair, elle a une mission à notre endroit, nous concevoir et nous enfanter dans l'ordre de la grâce. Allez à la source, boire et vous laver. Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Et sainte Bernadette n'a eu qu'un désir, c'était de faire plaisir à cette dame. Je vous parlais tout à l'heure de l'abbé Penn et je m'arrêterai par là. Quand l'abbé Serre l'a vue, à travers sa sœur, Bernadette manger l'herbe, se maculer le visage avec de la boue, il pose les questions à Bernadette. Bernadette, si vous voulez, c'est une extase, hein, c'est un autre mode de communication. Et en plus, elle a une mauvaise mémoire et elle a beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qu'elle a vu, sur ce qu'elle a compris intérieurement à la grotte. Et donc, elle répondra juste 3 mots pour les pécheurs. Et c'est tout ce qu'elle a compris, Bernadette. Elle a compris que la dame était joyeuse, mais lorsqu'elle parle du péché, son visage s'assombrit et s'attriste. Et du coup, elle n'a qu'un désir, c'est faire plaisir à la dame. Alors s'il faut manger de l'herbe pour lui faire voir son beau sourire, je mange de l'herbe. J'embrasse la terre par amour pour les pécheurs. Je bois de l'eau boueuse, je m'en macule même le visage. Et elle a bien compris que c'était pour les pécheurs. Et bien voilà un peu cette spiritualité bigourdane qui repose à la fois, comme dans tous les diocèses, hein, sur un certain nombre de saints qui se sont efforcés à la fois de nous annoncer la bonne nouvelle du Christ, qui, avec des qualités parfois très différentes entre un saint Vincent de Paul, saint Exupère, mais s'efforcer de mettre nos talents et nos charismes eh bien, au service du règne du Christ, et la Vierge Marie aussi, qui œuvre depuis le haut du ciel, qui n'a cessé de venir visiter notre terre. C'est la devise, hein, je vous l'ai dit, de la Bigorre. Notre-Dame, Bigorre, eh bien, c'est ce que nous lui demandons, eh bien, de nous aider, nous aussi, à aller à la source pour boire, car seul le Christ étanche notre soif, et pour nous y laver, parce que c'est en lui que nous pouvons espérer la miséricorde, permettant d'entendre dire au dernier jour le Seigneur, « Entre maintenant, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. »